France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En écho à La Fontaine, l'émission s'appelait « Les 100 actes divers », divers en un seul mot donc. D'ailleurs, c'était au printemps qu'en 1963 était diffusée sur la chaîne parisienne l'émission que nous allons entendre. Simone Signoret en était l'invitée qu'interrogeait Roger Régent entre les extraits de quelques-uns des films qu'elle avait tournés jusqu'à cette année 63 où sortait « Le jour et l'heure » de René Clément, dont elle interprétait le premier rôle. Les amours célèbres de Michel Boiron, Les sorcières de Salem de Raymond Rouleau, Adwa et ses compagnes d'Antonio Pietrangeli, Les diaboliques de Clouzot, Casque d'or de Jacques Becker, La mort en ce jardin de Buñuel, Ombre et lumière d'Henri Calef et Les mauvais coups de François Leterrier. Ce sera dans ces films que nous allons retrouver la voix de Simone Signoret à l'écran. Une actrice qui, à ce moment de son histoire, après Casque d'or, après Les diaboliques, était depuis plusieurs années une très grande vedette, distinguée d'un prix d'interprétation au Festival de Cannes de 1959 pour Les chemins de la haute ville et en 1960 pour ce même film d'un Oscar de la meilleure actrice, alors que les comédiennes en lice avec elle étaient Doris Day, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor et Katharine Hepburn. Dans l'archive qui va suivre, outre ses souvenirs de tournage avec Clouzot, Becker et Feder, Simone Signoret évoquait d'ailleurs l'émotion qu'elle avait ressentie en recevant la très convoitée statuette. Les 100 actes divers, Simone Signoret, première diffusion le 22 avril 1963 sur la chaîne parisienne.
La radiodiffusion télévision française vous invite à écouter Les 100 actes divers, une émission de Jacqueline Adler et Roger Régent. Aujourd'hui, Simone Signoret. Avec des extraits des films « Les amours célèbres » de Michel Boiron, « Les sorcières de Salem » de Raymond Rouleau, « Adieu et ses compagnes » de Antonio Pietrangeli, « Les diaboliques » de Henri-Georges Clouzot, « Casque d'or » de Jacques Becker, « La mort en ce jardin » de Louise Buñuel, « Ombre et lumière » de Henri Calef et « Les mauvais coups » de François Leterrier. Avec la participation de Simone Signoret, le commentaire radiophonique de Roger Régent est dit par Robert Martin, chef opérateur du son, René Relot. Avec Simone Signoret, qui est aujourd'hui à l'affiche de nos 100 actes divers, nous touchons à cette génération de la colère qui fourbit ses armes entre 40 et 44 et qui s'épanouit au lendemain de la Libération. Nourrie des poèmes de Prévert, ayant au cours des années noires hanté les cafés littéraires de Saint-Germain-des-Prés, Simone Signoret débuta dans la figuration aux environs de 1942. On peut voir sa silhouette furtive passer dans « Les visiteurs du soir », dans « Adieu Léonard », ce charmant film de Pierre Prévert qui chante la poésie des petits métiers, de l'étameur, du repasseur de couteaux-ciseaux, du marchand de peaux de lapin, et où elle figure une belle gitane, aux jupes larges et multicolores, qui s'en va dire la bonne aventure sur les routes ensoleillées. Après ces bagatelles de la porte, Simone Signoret passa dès 1946 aux choses sérieuses avec Les démons de l'aube. Puis très vite, ce fut Macadam, où elle rencontra Jacques Feder, Dédé d'Anvers et Manège enfin, qui firent d'elle la plus grande vedette française de cette après-guerre tumultueuse où les musiques de Saint-Germain-des-Prés changeaient de rythme, le Flore et les deux magots de clients.
Vous avez tourné, Simone Signoret, environ une vingtaine de films, peut-être un peu plus, on ne les a pas comptés. Aujourd'hui, si vous jetez un regard en arrière sur cette carrière, quelle impression avez-vous? Quelle impression d'enrichissement, qu'est-ce que vous ont apporté ces 20 et quelques rôles?
Je ne crois pas que ce soit les rôles qui apportent quelque chose à un acteur. Je crois que c'est l'acteur qui apporte quelque chose au moment où il joue les rôles grâce à sa vie, grâce à la vie que l'acteur a eue. Je crois que la seule école de cinéma pour un acteur, pour une actrice, je ne sais pas pourquoi je parle au masculin, c'est la vie qui vous l'apprend. Je m'explique. Grâce au métier que j'ai fait, qui m'a fait rencontrer des gens, souvent très merveilleux, voir des pays extraordinaires, ou même voir des pays très laids, tout est bon, tout est nourrissant, tout est enrichissant. J'ai tourné, par exemple, en Angleterre, pour Room at the Top, dans une ville industrielle du nord de l'Angleterre, très triste, qui est à peu près l'équivalent de Valenciennes ici. Je sais que ça m'a enrichi, parce que j'ai vu des choses et des gens que j'avais jamais vus avant.
Quand vous choisissez un scénario, c'est en fonction, tout de même, du personnage que vous allez y jouer.
Non, pas uniquement. C'est en fonction de l'ensemble, absolument de l'ensemble, du tout. Je suis incapable, donc à aujourd'hui, absolument incapable de jouer un très très beau rôle dans une histoire qui ne me satisferait pas complètement. Je peux me le permettre, c'est un luxe, je sais, mais ce n'est pas un beau rôle, ça ne me suffit pas.
Comment choisissez-vous en réalité vos rôles?
Je serais parfaitement capable d'accepter de jouer un personnage antipathique, je l'ai fait souvent d'ailleurs, dans une histoire qui tenterait à prouver que ce personnage antipathique n'a pas raison. Enfin, je m'explique encore mieux. Je vais prendre des exemples concrets. Par exemple, je pourrais jouer une indicatrice de la Gestapo dans un film dont l'ensemble du récit tenterait à prouver que la Gestapo a tort. Et je ne pourrais pas jouer une mère admirable et une femme charmante et délicieuse dans un film dont l'esprit tenterait à prouver que la Gestapo a raison. Voilà.
Est-ce qu'il y a parmi les grands personnages littéraires un rôle que vous aimeriez particulièrement jouer?
Non, je ne peux pas dire ça. Je n'ai pas la Dame aux Camélias rentrée, enfin, le personnage historique ou de roman que je voudrais faire à tout prix. Louise Michel, peut-être, mais il faudrait que je relise son histoire.
Commençons la revue de ses rôles par les amours célèbres. Elle incarne dans ce film une femme terrible, une femme qui est surtout une amoureuse. Afin de garder l'homme qu'elle aime et qui est sur le point de lui échapper, elle le fait vitrioler. Désormais, Monsieur René de la Roche, c'est le nom de cet homme, lui appartiendra pour toujours. Tel est du moins son calcul. Dans ce rôle de génie de la cour, nous sommes dans la deuxième moitié du XIXe siècle, sous le Second Empire, et génie de la cour est le nom pris par cette demi-mondaine de haut vol, Simone Signoret va montrer dans les deux scènes que vous allez entendre deux faces absolument opposées de son talent. Tout d'abord sifflante, perfide, impitoyable avec le commissaire de police chargé de l'enquête, cette enquête dont elle se plaint elle-même avec la plus noire hypocrisie qu'elle n'avance pas. Le rôle du commissaire Massot est joué par François Mestre.
Alors, commissaire.
Alors, madame, nous piétinons.
C'est admirable. Bien sûr, Paris est un coupe-gorge. On vitriole un homme à minuit à 50 mètres de la chaussée d'Antin. Monsieur le préfet de police lui-même dingue sans émouvoir. Vous envahissez ma maison, vous harcelez mes gens, vous fouillez la vie de monsieur de la Roche et la mienne. Et après 6 semaines, tout ce que vous trouvez à me dire, c'est nous piétinons.
La police a le temps, madame.
La police peut-être, monsieur. Je vois pas.
Je ne vois pas. Non, vraiment, je ne vois pas ce que vous gagneriez à l'arrestation du coupable. Je veux dire que le mal fait à M. de la Roche est, hélas, irréparable.
Vous le prenez ainsi, commissaire? Non, restez, restez. On va vous servir le thé, comme tous les jours.
Vous insistez si aimablement, madame, que j'accepte. J'aimerais d'ailleurs vous poser une question, ou deux, si vous m'y autorisez.
Je vous en prie.
À combien évaluez-vous les dettes de votre...
De mon amant? Dites le mot, commissaire. Il vous fait peur? Moi, je le trouve beau. Marie, c'est lugubre. Le mien n'a eu d'esprit qu'une fois. En me faisant veuve à 20 ans. Fiancé, c'est nier. Amant, c'est beau. Non?
Vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, madame.
C'est juste. Vous avez une tête de mari.
Puis-je répéter ma question?
Enfin, commissaire, je croyais m'être fait comprendre. Je ne tiens pas les comptes de M. de la Roche. Adressez-vous à sa cuisinière ou à sa femme de charge.
Justement, cette brave femme a cité un chiffre de 15 000 livres répartis entre les créanciers divers. Elle a ajouté que le mariage de son maître avec Mademoiselle de la Sablière aurait évidemment bien arrangé les choses.
Évidemment.
Et pourquoi ce projet de mariage n'a-t-il pas abouti, selon vous?
Mais parce que M. de la Roche m'aime, commissaire. Vous ne vous en êtes pas encore aperçu.
Évidemment. Donc, M. de la Roche vous aime. Mademoiselle de la Sablière s'inquiète de cet attachement persistant. Et elle hésite.
Mettez-vous à sa place.
Je m'y mets. Je suis jeune, belle, riche, bien née, éprise du comte de la Roche. Il m'offense en s'affichant avec...
Avec une aventurière.
Avec une rivale. Je me venge.
Elle? Le romantisme vous égare, commissaire. On ne vitriole pas dans la bonne société. On ruine, on tue en duel, on déshonore. On ne vitriole pas.
Et voici l'autre génie de la cour, l'amoureuse, la panthère royale devenue douce et qui se lisse le poil. Elle est avec son amant, René de la Roche, cruellement blessé au visage et aveugle. René de la Roche, c'est Pierre Vanneck.
Est-ce que je suis défiguré? Dites-moi la vérité.
Bien, je vais te la dire, la vérité. Non. Tu n'es pas défiguré. Si tu retrouvais la vue, tu serais exactement le même qu'avant. Léger, vaniteux, égoïste, menteur, infidèle. Tellement sûr de plaire avec ça. Pourquoi est-ce que c'est toi que j'ai aimé? Pourquoi est-ce que je t'aime? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de te voir, de te toucher? T'entendre. C'est drôle. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans, c'était le contraire. Tu étais devant moi comme un enfant devant un arbre de Noël. Il te fallait génie de la cour pour toi et pour toi tout seul. La belle génie de la cour qui avait été la maîtresse de l'empereur. La belle génie de la cour pour qui un prince s'était fait sauter la cervelle. Et la première fois que nous sommes allés souper ensemble au café anglais, je ne sais pas de quoi tu étais le plus fier. De mes amants, de mes diamants, d'avoir été choisi toi pour m'accompagner ce soir-là. Et à ce moment-là, je me suis dit, celui-là, il ne faudra pas y toucher, parce qu'il te fera souffrir. Ce sera le premier, mais il y arrivera. Et pendant 5 ans, j'ai pensé au moment où tu t'en irais. Tu me laisserais toute seule, avec quelques souvenirs en plus et quelques diamants en moins. Pendant 5 ans, j'ai vécu suspendue à ton souffle, à tes regards, à tes humeurs, à tes projets. Maintenant.
Maintenant, j'ai besoin de toi, tu le sais bien.
Changement complet avec les sorcières de Salem, où nous retrouvons Simone Signoret incarnant le personnage le plus pur de toute sa carrière cinématographique. Elle avait joué de long soir la pièce d'Arthur Miller sur la scène du théâtre Sarah Bernhardt. Au cinéma, et sous la même direction de Raymond Rouleau, elle retrouve ce rôle d'Elizabeth Proctor, cette américaine de l'Oregon qui, au XVIIe siècle, fut accusée de sorcellerie par des filles hystériques. Dans cette courte scène, où le rôle de John Proctor, son mari, est tenu par Yves Montand, Simone Signoret est l'épouse fidèle, exemplaire mais trop vertueuse que Proctor, désemparé, s'efforce de ramener à lui.
Elisabeth, voulez-vous m'aider?
Je suis votre femme, John. Je vous aiderai de toute mon âme.
Vous êtes mon associé, ma sœur. Quelquefois ma mère, mais depuis 7 mois, vous n'êtes plus ma femme.
Je suis malade, John, vous le savez.
Êtes-vous vraiment malade?
Je ne mens jamais.
M'aimez-vous?
Je vous ai dit que je suis votre femme.
Je vous demande si vous m'aimez.
Avec Fancy, vous êtes ce que j'ai de plus cher au monde. Mais comment puis-je vous aider?
Oh, vous m'aideriez si je sentais que vous m'aimez.
Je vous aime, John.
Si vous m'aimiez. Si j'avais senti quelquefois. Il y a plusieurs manières pour une femme d'expédier un homme en enfer. Elle peut le damner en lui donnant le goût du vice. Mais elle le damne aussi quelquefois parce qu'elle aime trop la vertu.
Adoua et ses compagnes. C'est pour Simone Signoret l'occasion de retrouver un personnage qui ressemble, par la condition sociale, sinon par le caractère, à cette Dédé de ses débuts, cette petite prostituée d'Anvers qui reste l'un des rôles préférés de son interprète. Nous aurions voulu vous en faire entendre un extrait. Malheureusement, la question de la conservation des films est l'un des plus inquiétants problèmes du cinéma. Combien de chefs-d'œuvre sont ainsi perdus ou en voie de disparition? N'ayant pas Dédé, voici donc Adoua. C'est une fille qui, à la fermeture de ses maisons d'illusion dont elle était la pensionnaire, décide avec 3 de ses compagnes, rendues elles aussi à la vie civile, d'ouvrir dans la campagne des environs de Rome un hôtel-restaurant qui leur permettra de refaire leur vie dans l'honnêteté et dans le travail. Mais Adoua et ses amis sont marqués par leur passé. Pour les hommes qui savent d'où elles viennent, elles restent des demoiselles de petite vertu. Écoutons cette scène où Adoua, sans aucune illusion sur les intentions de cet homme qui l'accompagne jusqu'à Rome en voiture, ne s'en laisse pas compter et traite avec une ironie désinvolte cet éternel masculin.
Écoute, Piero Salvini, c'est vrai que j'ai pas confiance en toi, mais pas confiance du tout. J'ai une grosse habitude et je vois très bien où tu veux en venir. T'as un bon physique de jeune premier, mais t'as aussi 2 carreaux qui ne trompent pas. Enfin, qui ne trompent pas, moi, en tout cas.
Ah non, bon, là, les carreaux, maintenant. Non, mais est-ce que vous croyez que chaque fois que je veux vendre une bagnole, je...
Il s'agit pas de la voiture. Il s'agirait plutôt de ce que tu as imaginé dans ta tête. Ça fait des années que je circule. Des gars comme toi, j'en ai rencontré plein. Alors, pour le bar atteint, adresse-toi à Milly. Ou à Lolita, tiens.
C'est toi qui me plais.
T'as bien dit ça. On te croirait presque.
C'est la vérité.
Tu mens pas mal. Pas à ce point-là.
Si tu le prends comme ça...
Écoute, hypocrite, je vais te croire pendant 10 minutes. Mais 10 minutes, hein, pas 10 ans. Alors, tu le bascules, ton fameux siège?
Cependant, Adoua est devenue la maîtresse de Piero et elle éprouve un amour sincère pour ce beau garçon qui la trompe et ne comprend pas ses aspirations vers une vie différente de celle qu'elle a connue jusqu'alors. C'est Marcello Mastroianni qui est Piero.
J'ai pas arrêté de te téléphoner toute la journée.
Ah oui, c'est bien, mais j'ai eu un tas de choses à faire. Qu'est-ce qu'il y a? Il t'est arrivé quelque chose?
Une allumette?
Oui. Ouais. Tu vas tout de même pas me dire que t'es venu jusqu'ici pour me demander une allumette.
Rigole pas parce que j'ai pas le cœur à rire. On est foutu dehors.
D'où ça?
Du restaurant.
Je parie que Milly a empoisonné quelqu'un avec des champignons, hein.
Mais là, on se bagarrer avec le patron. Il dit qu'il veut s'en tenir aux accords. Pourtant, il marche bien, le restaurant. C'est nous qui l'avons fait, non? On va continuer. Même après aussi.
Après quoi?
Ben après. Quand on aura fini d'être jeune. Puis il y a Mireille là avec le gosse et puis Milly qui veut se marier. Qu'est-ce qu'on devrait faire, Pierrot?
Ce que vous devriez faire, ben, je sais rien. Puis quoi, je vois pas en quoi je peux vous aider, je le connais pas, moi, s'il te plaît.
Tu m'aimes?
Oui, évidemment. Pourquoi tu me demandes ça?
Alors, ça te ferait pas plaisir que je continue seulement à m'occuper du restaurant? Ce serait pas mieux comme ça? Pourquoi on devrait recommencer comme avant? T'as vu celle-là qui est passée tout à l'heure? Je vais pas finir comme ça, moi.
Non, je comprends pas, parce que jusqu'ici, alors dans votre restaurant, vous ne...
Allez, vas-y, continue.
Non, mais il s'agit pas de toi, bien entendu, mais... Mirella et les autres... Je pensais qu'elles avaient... Hein? Ah, ben je... Bon, je me suis trompé, alors, excuse-moi. Bon, enfin, quoi, qu'est-ce que j'ai dit à toi? Tiens, tu sais ce qu'on va faire demain, je m'en occuperai. Enfin, quoi, on va bien trouver un moyen, non? Moi, je vais lui parler à ce gars-là. Hein? C'est moi qui lui parlerai.
Et qu'est-ce que tu lui diras? T'es d'accord, toi aussi? Que c'est très bien comme ça? Parce que vous êtes tous d'accord, dans le fond, hein? Toi, lui et les autres. Et nous, qu'est-ce qu'on est? Marqués, hein? Maqués pour la vie!
Avant d'en arriver au diabolique, l'un des rôles clés dans la carrière de Simone Signoret, passons quelques instants avec elle-même et parlons de ce film de Clouzot, qui le réalisa, et des rapports de l'actrice Simone Signoret avec ses metteurs en scène.
Vous qui avez un grand caractère et une volonté très ferme, et qui avez tourné avec des metteurs en scène qui, eux aussi, sont des gens de grand caractère, comme Feder, Clouzot, Carnet, Clément, Becker, est-ce que vous avez eu parfois à vous heurter avec leur conception?
Non, une fois seulement, avec Clouzot. Non, parce que finalement, j'ai l'air très comme ça, mais je suis très docile dans le travail, moi. Je suis très docile, j'ai toujours un petit peu l'impression d'être à l'école, parce que je suis de cette vieille génération qui a été élevée dans le respect du metteur en scène. Alors pour moi, le metteur en scène, à moins que je tombe sur un parfait imbécile, ce qui m'est arrivé vraiment très, 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 très rarement, le metteur en scène, il a raison. Pour moi. Alors, comme en plus, avec tous les noms que vous venez de citer, il est évident que ces gens-là ont toujours raison et qu'ils l'ont prouvé, il n'y a pas de problème. La docilité est à leur vœu est absolument obligatoire. Sans ça, on ne peut pas travailler. Je me suis heurtée avec Clouzot parce que d'abord, il aime bien qu'on se heurte avec lui. Ça l'aide à travailler. Et il aime bien travailler un peu dans le drame. Moi, je l'aime beaucoup, Clouzot. Alors, je peux dire ça en toute liberté. S'il m'écoute, il ne me contredira pas. Il sera très content. On parle de lui, il sera content. On pourrait couper ça, si vous voulez. Non, avec Clouzot, je me suis heurtée parce que... Et c'est avec les années qui ont passé que je me suis aperçue que c'était probablement à 50% de ma faute. Et je n'ai pas peur de le dire aujourd'hui. On tournait un film qui était finalement un problème d'échec. Enfin, c'était un film systématique, c'était Les Diaboliques. Il fallait que... Et il avait préparé son découpage et il voulait son film... comme il le voulait, et ça le regardait, il en était l'auteur, il avait bien raison. Bon, il me voulait d'une certaine façon. Et comme c'était l'histoire d'une femme qui, finalement, était coupable, mais dont on connaissait la culpabilité qu'à la dernière image, il me disait souvent, quand nous nous engueulions, car nous nous engueulions quotidiennement, il me disait, j'aurais jamais dû vous faire lire la fin du film. Et je trouvais ça très vexant, et je lui disais, mais vous me prenez vraiment pour une imbécile, pourquoi? Vous avez déjà vu des acteurs qu'on fait tourner sans leur dire comment finir le film? Et ça me vexait énormément. Bon. Et parce qu'il me voulait, ayant l'air innocente, pour que le public croie à mon innocence, et que par conséquent, à la fin, le public soit surpris. Moi, qui me savais coupable, puisque j'avais lu le scénario, il le regrettait amèrement, mais enfin, je l'avais lu quand même, j'avais une tendance à tout jouer en fonction de cette culpabilité finale. Donc, il avait raison. Et Noir venait sur tout ça. En plus, il aime bien quand même dire « faites ce que je vous dis, discutez pas ». Il aime bien vous traiter un peu comme un meuble. Il a peut-être raison, d'ailleurs, je dis pas que ce soit pas un bon système. Avec moi, c'est peut-être pas le meilleur. Moi, j'aime mieux qu'on travaille avec, enfin. Mais à part ça, c'est le seul avec lequel je sortais. D'ailleurs, c'est connu, on en rit souvent, puisque nous sommes restés les meilleurs amis du monde. Une fois que le boulot a été terminé, on aime bien manger ensemble, quoi. On est bien, on se voit beaucoup, on est très copains. Mais dans le travail, c'était un petit peu difficile.
Votre premier grand rôle au cinéma, ça a été, je crois, Macadam. C'était Jacques Feder qui le dirigeait. Oui. Vous avez gardé des souvenirs, oh là je là. Pense, sur Feder, qui a été un homme...
Un inoubliable souvenir. Je peux dire encore aujourd'hui, après avoir travaillé avec tant de gens exceptionnels, que ce que j'ai appris avec Feder et Rosé en 3 mois de tournage, alors que vraiment, c'était une époque où je ne savais rien, enfin, j'avais sûrement un instinct, mais je ne savais pas mon métier du tout. J'ai plus appris avec eux en 3 mois que je n'aurais appris en faisant 10 films avec des médiocres. Enfin.
Dans Les Diaboliques, Simone Signoret joue donc le rôle d'une coupable, mais on ne doit la prendre qu'à la fin. Cette scène se place dans la première moitié du film, alors qu'elle persuade l'une de ses amies de tuer son mari qui la brutalise. C'est Vera Clouseau qui fut, dans ce film, la partenaire de Simone Signoret.
Je t'en supplie, arrête. C'est trop affreux.
Tu pourrais bien la remplir.
Je pourrais pas. Je sens que je pourrais pas. Pas aujourd'hui.
Il le faut. Tu le sais aussi bien que moi. Ce sera aujourd'hui ou jamais.
Alors jamais. Abandonnons. C'est au-dessus de mes forces.
Comme tu voudras. Seulement, je te préviens, si tu le rates, lui ne te rattrapera pas. Surtout après ton coup de téléphone.
Oh, je sais pas. Je sais plus, moi. Nicole, je t'en prie, aide-moi.
Pourquoi bon? C'est au-dessus de tes forces. Ah, j'aurais jamais dû me fier à toi, tiens. Moi aussi, je me suis mouillée dans cette histoire. Et tu me lâches?
Oui. Tu as raison, je ne vois rien. Je suis une ruine. Une petite ruine. C'est lui qui l'a dit. Mais la petite ruine va se venger. Elle tiendra ce qu'il faudra. Même si elle doit s'écrouler après. La seule chose que je regrette, c'est qu'il ne sera jamais que c'est moi qui ai fait ça.
Allons, allons. Tout à l'heure, tu as abandonné, maintenant tu t'exaltes. Non, ce qu'il faut, c'est du calme. Beaucoup de calme. Beaucoup de sang-froid.
J'en aurai, Eva. Je te jure que j'en aurai.
Bon. Il est temps que je monte chez les imbéciles du dessus.
Tu ne peux pas rester avec moi?
Si les herbous mettent le nez à la fenêtre, et s'ils le voient entrer.
Tu reviendras tout de suite, dis.
Le plus vite possible, je te le promets.
Allez, du courage.
Dans une demi-heure, tout sera réglé.
Le crime est maintenant accompli. Mais les deux complices, affolés par la disparition du cadavre, commencent à s'affronter. Le plan machiavélique des assassins suit son cours.
Le médecin m'a dit...
Ça m'est égal, ferme les volets et va-t'en.
Ah non, ce serait trop facile. Beaucoup trop facile. Ça te semble naturel, à toi un cadavre qui s'en va tout seul? Pas à moi. S'il n'est plus dans la piscine, c'est qu'on l'a enlevé. J'ai demandé à Plantivaux s'il avait ouvert la porte à quelqu'un, il m'a dit personne.
Pourquoi veux-tu qu'il mente?
Mais je dis pas qu'il ment! Enfin, si personne n'est sorti, le corps doit être encore dans la propriété. Eh ben, j'ai fouillé partout. Les greniers, le jardin, les sous-sols, y a rien! Pas de terre remuée, pas de traces de... Y a rien, rien! Oh, j'ai la tête qui éclate, moi. J'ai vu une histoire de fou.
Depuis le début, c'est une histoire de fou. Même pas l'histoire de boss.
Casque d'or est probablement le personnage que Simone Signoret a le plus aimé parmi tous ceux qu'elle a fait revivre à l'écran. Cette Jeanne Amélie Ellie, qui était la fille d'un douanier de la porte de Vincennes, fut l'un des personnages les plus étonnants de l'histoire de Paris il y a exactement 60 ans. Voici un ensemble de flashs de ce film où Simone Signoret, maîtresse du jeune Manda, connaît une fois encore les tourments de la jalousie et de l'abandon. Manda est l'un des chefs de la bande des Apaches, il a commis un crime, se cache aux environs de Paris, où son rival Leka va le retrouver et lui annoncer une nouvelle qui va changer la vie des deux amants. Manda, c'est Serge Reggiani, Leka, Claude Dauphin.
Alors, on est allé voir monsieur le curé, à quand la noce?
C'était pas très ça, hein?
Moi? Oh non, pourquoi? Tout le monde a le droit de se marier, pas Fredo?
Oui. Dis donc, je savais pas que t'aimais la pêche. T'en as pris beaucoup du poisson?
Oui, oh, juste une petite friture, on a surtout voulu prendre l'air. T'as un gentil petit coin ici, hein? C'est tout à fait ce qu'il vous faut, vous restez longtemps?
Peut-être bien, on sait pas. Pourquoi?
Ah bah parce que si ça vous plaît, faut pas vous gêner, hein? Allez, c'est pas qu'on s'ennuie, mais faut rentrer à la maison, à cheval, Fredo. Salut.
Salut.
Au plaisir et bon amusement, hein?
Merci.
Ah! Eh, dis donc!
Ouais?
Non, c'est Amanda que je parlais. Non, tu peux rentrer à Paris, hein. Y a plus rien à craindre.
Pourquoi?
Ils ont arrêté quelqu'un à ta place.
Qui?
Raymond. Ah, c'est vrai, c'est ton pote, j'oubliais.
Manda.
Il y a une heure qu'il est parti.
Tu m'as pas réveillé. T'es folle, non?
Parce que je savais, moi. Il est d'abord parti acheter le journal.
Journal?
Oui. Puis là, tiens. Et puis il est revenu.
Et alors?
Et alors il a laissé le journal sur la table pour que tu le lises, il m'a dit.
Tiens, voilà Marie.
Pour La mort en ce jardin, Simone Signoret a une fois de plus rencontré l'un des grands metteurs en scène qui honore le cinéma, Luis Buñuel. C'est un roman d'aventure qui se déroule tout d'abord dans un petit village d'Amazonie, puis dans la forêt vierge. Simone Signoret, qui s'appelle Jean dans l'histoire, est une fois encore une fille de mœurs légères. Ce pays où il y a des chercheurs de diamants et des aventuriers est pour elle un pays d'élection. Un nouveau venu, Shark, le rôle est joué par Georges Marchal, ne peut la laisser indifférente. À la suite d'une révolte dans la ville, Jean et Shark ont dû fuir dans la forêt vierge en compagnie de Castin, considéré comme un meneur du soulèvement, de la fille de celui-ci, Maria, sourde muette, et d'un prêtre. Prêts à mourir de faim et d'épuisement, les fugitifs sont sauvés par l'épave d'un avion qui s'est abattu dans la brousse et auprès de laquelle ils trouvent des vivres et des fortunes de bijoux dans les bagages des passagers qui ont tous péri. Chance inespérée pour Jean. Elle propose à son amant de fuir avec le trésor en abandonnant leur compagnon et la petite sourde muette.
C'est une fortune. Où t'as trouvé ça?
Dans le lac.
Par à deux. Dis donc, c'est moi qui ai trouvé l'avion avec tout ce qu'il y avait dedans.
Eh ben justement, c'était à toi tout ça. Et la fille part sur le marché.
Je n'avais pas compris. T'es bonne fille quand tu veux.
Non. Seulement on est pareil tous les deux. On pourrait s'entendre si tu voulais.
Comme ça, tout d'un coup. Tu permets? Pour être belle, il faut ce qu'il faut.
Oh non. Pas tout d'un coup. Tu me plaisais seulement. Notre histoire avait mal commencé. Tu m'en voulais.
Il y avait de quoi?
En marchant dans la forêt que je me suis rendu compte. Une femme? C'est rien sans un homme.
Voilà. Te voilà paré pour une nouvelle vie.
Oh, est-ce que c'est beau, hein? Seulement, on risque d'avoir des ennuis avec le curé à cause de ça. Alors si on filait tous les deux,
Oui, bien sûr. Mais c'est pas possible, on peut pas laisser la petite.
La petite? Oh, mais pense pas à la petite. Je veux un homme pour moi toute seule. C'est la première fois que ça m'arrive.
Va pas faire du sentiment, non?
Tu
crois pas. T'as pas confiance.
Si, j'ai confiance.
C'est vrai que je t'aime, Jack. J'ai mis du temps à comprendre, mais c'est vrai. Oh, je suis tellement heureuse que j'ai envie de pleurer. C'est pas croyable.
Autre aspect encore du talent de Simone Signoret dans Ombre et Lumière. L'histoire est un mélodrame, mais l'interprétation mesurée des deux vedettes du film, Simone Signoret et Maria Cazares, arrache l'ouvrage au mélo et la tire vers le drame psychologique. Simone Signoret, elle s'appelle ici Isabelle, est une grande pianiste qui fut soudain frappée de folie un soir pendant un concert. Elle jouait un concerto de Tchaïkovski. Après un long temps passé dans une maison psychiatrique, Isabelle recouvre la raison et interroge son médecin.
Alors maintenant, docteur, j'aimerais que vous me disiez comment je suis devenue folle et de quelle nature était cette folie.
Vous employez des termes excessifs. Et puis c'est tellement inutile, puisque vous êtes guéri.
Non, mais vous savez que si vous refusez de me répondre, d'autres que vous se feront un plaisir de m'enseigner. Alors épargnez-moi au moins la brutalité.
Dans mon songe. Aussi. Vous avez votre réussite à vous faire pardonner.
Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah oui, je me souviens. Oh, j'étais à bout de force. Je faisais un effort terrible pour tenir. J'avais peur de ne pas y arriver. Dès que j'ai attaqué les premières notes du concerto,
c'est dès ses premières mesures qu'Isabelle s'évanouit.
C'est extraordinaire, ce personnage qui me ressemblait. Qui pourtant n'était pas moi. Je me les rappelle comme dans un rêve ou comme dans une autre vie. C'est curieux, la folie, docteur.
Avant d'entendre de nouveau la Simone Signoret véhémente et cynique, dans son personnage de Robert du film Les Mauvais Coups, retrouvons-la encore une fois dans son appartement de la place Dauphine, où elle nous parle de son dernier film.
Votre dernier film, qui est Le Jour et l'Heure, vous aviez René Clément comme metteur en scène. C'est la première fois que vous tourniez avec lui. Quelles sont vos impressions?
Je l'ai connu quand j'étais moi figurante et qu'il était lui assistant, il y a 20 ans. Et c'est la première fois qu'on travaillait ensemble. Ça, c'est encore une expérience pour moi passionnante et inoubliable. Je vais en radoter en disant qu'on a beaucoup ri, mais si je ne peux pas commencer autrement, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup ri en faisant un film. Il ne faudrait pas confondre, quand je dis qu'on rit, on ne rit pas dans le moment du travail, on ne rit pas, n'est-ce pas, dans les scènes. Mais entre les scènes et le soir, une fois le travail terminé, on rit beaucoup. C'est ça que je veux dire. Ça a été passionnant, c'était un film très dur sur le plan physique, parce qu'il est plein de scènes de nuit, de scènes de train, de scènes de métro, de montagnes à escalader, et de choses qui, sur le plan physique, sont très dures, mais qui ont passé vraiment comme des lettres à la poste, parce que c'était tellement passionnant de travailler pour Clément et avec son équipe. D'ailleurs, je crois qu'on peut poser la question à tous les gens qui ont participé à cette aventure. Ça a été leur aventure aussi. C'est avec le tournage de Casque d'or. Pour les mêmes raisons, à cause de Jacques Becker et de ce qu'était Becker et de ce qu'était cette équipe et d'acteurs et de techniciens. C'est un souvenir merveilleux, quoi.
Vous êtes, je crois, la seule actrice française qui ait obtenu l'Oscar en Amérique. Quand vous êtes montée sur la scène le soir où on vous a remis l'Oscar, c'était bien que ce fût pour un film anglais, de langue anglaise, vous étiez quand même la seule française recevant. Quelle impression avez-vous eue?
Eh bien, je vais vous dire, finalement... D'abord, ça a été bouleversant. C'est inracontable. Je souhaite à beaucoup de gens de passer un jour par là. On peut s'en passer. Enfin, ma vie ne serait pas changée si je ne l'avais pas eu. Parce que la vie, c'est quand même autre chose que les récompenses professionnelles, Dieu merci. Mais c'est une date à laquelle je pense quelquefois, et je le dis en toute immodestie, ça a été un soir merveilleux, extraordinaire. En plus, parce que c'était l'Amérique et parce que c'était la première fois qu'une Française l'avait, je me sentais à la fois Jeanne d'Arc, Victor Hugo, la prise de la Bastille et la Commune, et tout ce qu'il y a de plus important dans l'histoire de France, parce qu'on a la tendance, à l'étranger, d'être chargé de toutes les gloires de votre pays quand on vous récompense. D'ailleurs, je dois dire, puisque c'est vous qui avez parlé de l'Oscar, qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que je n'ai dû cette récompense qu'au fait que j'avais fait un film en langue anglaise, parce que c'est une récompense qu'on ne peut pas recevoir avec un film de langue française. Le metteur en scène peut, comme Bourguignon, vient de le recevoir pour un film étranger, mais... L'Oscar de la meilleure actrice, ça n'est donné qu'à quelqu'un qui a joué dans la langue. Sophia, par exemple, s'est doublée. C'est pour ça qu'elle l'a eu. Et là, je dois dire que je ne remercierai jamais assez les Anglais, c'est-à-dire Jack Clayton et Jimmy Wolfe, le producteur, qui ont pensé à me donner ce rôle. Parce que sans ça, les Américains ne m'auraient jamais connu. Il n'y avait aucune raison. Ils ne connaissent pas les acteurs français du tout. Même les meilleurs, ils ne les connaissent pas. Les films français passent dans des petites salles spécialisées, comme ici, les films passent aux Ursulines. Mais le gros public ne nous connaît pas du tout. Il connaît Bardot, oui, c'est vrai. Et puis, c'est tout.
Nous terminerons ce rapide panoramique sonore de la vie cinématographique de Simone Signoret, rapide et trop incomplet à notre gré, par Les mauvais coups. Nous retrouvons dans ce personnage imaginé par Roger Vaillant le fauve royal des amours célèbres, des diaboliques ou de Thérèse Raquin, l'amoureuse aussi qui sacrifie tout à sa passion exclusive. Elle s'appelle Roberte, est mariée à Milan, un coureur automobile qui a abandonné la compétition depuis que son meilleur ami s'est tué au volant dans une épreuve. Roberte, vieillie par l'âge et par l'alcool, craint chaque jour d'être abandonnée. Et lorsqu'une jeune fille, institutrice dans le voisinage, apparaît dans la vie du couple, Roberte se met à jouer un curieux jeu avec l'innocente enfant. Reginald Kiernan est Milan et l'innocente enfant, Hélène, c'est Alexandra Stewart. Roberte n'a pas tardé à s'apercevoir qu'Hélène plaisait à son mari. Et le curieux jeu continue, où Roberte est tour à tour gentille, attendrie, perfide aussi, allant jusqu'à faire jouer à Hélène son propre rôle au temps où elle fit la connaissance de Milan. Milan et Hélène viennent de faire une promenade dans la campagne sous la pluie. À leur retour, Roberte les accueille.
Hélène, reste comme ça. Ça ne te rappelle rien. On avait marché pendant 10 heures. Tu me parlais de ton métier. Moi, j'osais pas te demander d'aller dans un hôtel. Pleuvait, ça t'était bien égal.
C'était à Paris.
Puis, quand tu as eu fini de t'essuyer les cheveux avec la serviette, je suis allée à la fenêtre. Je t'en prie, fais-moi ce plaisir. Va jusqu'à la fenêtre. Je suis restée là un bon moment, à regarder la scène. Et puis je me suis retournée. Tu étais allongée sur le lit et tu fumais une cigarette. Tu m'as tendu les mains. Et tu m'as prise par les poignets et tu m'as fait asseoir sur le bord du lit. J'étais heureuse, parce que j'ai pu être heureuse ce jour-là. Et puis tu m'as dit que tu m'aimais.
C'était il y a 10 ans.
Et voici la Simone Signoret, éclatante, véhémente, balayant tout autour d'elle, impitoyable à elle-même, cruelle envers cet homme qu'elle torture, d'autant plus qu'elle l'aime et veut le posséder absolument.
Parce que ta vie chez elle, ça t'amuse. Mais sont vos combines qui ne plaisent pas beaucoup. Tu veux pas qu'elle me prenne pour une imbécile. Pourquoi vous cachez-vous?
Pourquoi te cacher quelque chose? Tu n'as qu'un droit sur moi.
Parce que tu es un menteur. Je me demande d'ailleurs pourquoi tu es un menteur. Ça doit être ta vilaine nature.
C'est vrai, je te mens souvent.
Tu le reconnais?
Je te mens par pitié, pour que tu ne saches pas ce que je pense de toi.
T'as pitié, toi? Mais non. Tu es méchant, comme tous les faibles.
C'est vrai aussi. J'ai peur de toi. Tu es le seul être au monde dont j'ai peur.
Tu reconnais donc que t'as pas le courage de m'avouer la vérité.
J'ai peur de toi comme j'avais peur de l'enfer à 13 ans quand je faisais un péché mortel. Tu me possèdes comme un confesseur.
Mais t'es malade! J'ai fait ma vie avec un malade, moi. Et toutes ces histoires, parce que t'as pas le courage d'admettre que t'es allé chez Hélène pour lui dire de venir à la maison comme par hasard.
Robert, tais-toi!
Ça me devait la vérité.
Comme tu seras malheureuse le jour où je ne te mentirai plus. La colère, c'est tout ce que t'es capable de provoquer encore chez moi.
À vous, quoi? Oh!
Je souhaite ta mort.
Alors, je te tuerai.
La radiodiffusion Télévision française vient de vous présenter Les 100 actes d'hiver, une émission de Jacqueline Adler et Roger Régent. Aujourd'hui, Simone Signoret. Avec des extraits des films Les Amours Célèbres de Michel Boiron, Les Sorcières de Salem de Raymond Rouleau, Adoua et ses compagnes de Antonio Pietrangeli, Les Diaboliques de Henri-Georges Clouzot, Casque d'or de Jacques Becker, La mort en ce jardin de Louise Buñuel, Ombre et lumière de Henri Calef et Les mauvais coups de François Leterrier. Avec la participation de Simone Signoret. Le commentaire radiophonique de Roger Régent était dit par Robert Martin. Chef opérateur du son, René Relot.
Cette émission a été diffusée le 22 avril 1963 sur la chaîne parisienne.